Bonjour à tous et à toutes, il est 18h et tout de suite c'est Première Page sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Non, c'est pas vrai!
Qu'est-ce que tu dis?
Maman ne m'a pas puni, tu n'as pas bien écrit.
Qui t'a dit comme t'avais puni?
C'est écrit là!
Voyons, voyons, mais... Tu sais lire?
Oui.
Première Page, c'est la chronique littéraire pour lecteurs décomplexés. Un vendredi sur deux, à 18h sur Radio Campus Paris. Dans ce 14e épisode, le roman est à nouveau à l'honneur avec La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Lorsqu'une romancière se prend de passion pour un tableau de Vermeer, c'est le début d'une histoire passionnée dans la Hollande du XVIIe siècle. Je m'appelle Louisa Georges et vous écoutez le 14e épisode de Première Page, un vendredi sur deux, à 18h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Je ne veux plus que Marcel rentre dans une classe, ni même ouvre un livre, avant l'âge de 6 ans. Laisse-le encore un peu.
Si j'insiste sur l'importance des premières pages dans un ouvrage, c'est parce que je reste persuadée qu'elles sont décisives dans la suite de la lecture. Être conquise par la première page d'un livre, c'est comme un coup de foudre. On ne sait pas vraiment ce qui nous attend, la quatrième de couverture a su nous accrocher, mais tout reste encore à découvrir. Évidemment, nous ne sommes pas à l'abri d'une intrigue qui s'essouffle, d'un personnage franchement plat ou d'une fin décevante. La magie des premières pages n'est pas une science exacte. Mais lorsque ce coup de cœur arrive, c'est une satisfaction tout à fait particulière. C'est comme si, après tout ce temps, nous nous étions enfin trouvés. Comme si ce livre, couvert de poussière sur une étagère, restait à l'abri dans l'attente que je le remarque un jour, que j'accepte de lui laisser sa chance. Je vais trop loin ? Oui, je vais trop loin. Pour vous donner une comparaison, c'est comme lorsque la Terre entière vous recommande en boucle le même film, et parce que non, vous n'êtes pas comme le commun des mortels, ou que vous n'avez juste pas le temps ou l'envie, vous traînez à découvrir le fameux chef-d'œuvre. Mais le jour où vous passez enfin le pas, un nouveau monde semble s'ouvrir à vous. Vous l'aurez compris, le livre d'aujourd'hui fait partie de ces coups de foudre des premières pages. À la différence de ses classiques, celui-là ne m'avait pas été spécialement recommandé. Pour être tout à fait honnête, j'ai surtout commencé ce roman car le portrait représenté sur la couverture ornait alors le salon de mes grands-parents. La copie d'un tableau célèbre que je relis depuis toujours à cette maison et à de beaux souvenirs d'enfance. L'épisode du jour est consacré à La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Avant de vous parler du roman éponyme, je me dois de vous présenter le tableau original. La jeune fille à la perle est une peinture à l'huile sur toile réalisée par le peintre néerlandais Johan Vermeer vers 1665. L'œuvre est un portrait en buste d'une adolescente ou d'une jeune femme. Cette dernière porte un turban bleu sur la tête, surmonté d'un tissu jaune qui lui pend dans le dos. La peau claire du modèle fait contraste sur un fond sombre. La lumière vient du côté droit et se reflète dans la perle qui orne son oreille gauche, bijou qui deviendra emblématique de l'œuvre du peintre. Les épaules tournées vers la gauche du cadre, elle est montrée de trois quarts dos. Sa tête effectue une rotation vers la gauche, ce qui découvre une partie de son visage. Son regard est tourné vers l'artiste et le spectateur, auquel cette dernière semble s'adresser avec ses lèvres entrouvertes. Des lèvres rouges et pulpeuses qui ont dû motiver en partie le cast de Scarlett Johansson dans l'adaptation grand écran de notre roman, sorti en 2004. La star hollywoodienne n'a alors que 19 ans lorsqu'elle partage l'affiche du film avec Colin Firth dans le rôle du peintre. Le tableau serait une tronie, mot néerlandais du XVIIe siècle signifiant « visage ». Alors que le portrait vise à individualiser une personne réelle, la tronie se fiche de l'individu et insiste au contraire sur sa mise en situation, ressemblant par certains aspects aux scènes de genre comme la célèbre laitière, de Vermeer. Longtemps resté dans l'oubli, chez un collectionneur d'art, le nom de notre tableau est assez tardif. Le titre « La jeune fille à la perle » apparaît dans les années 1970 et s'impose progressivement, notamment grâce au succès du roman d'aujourd'hui. Ayant eu de nombreuses occasions de contempler ce portrait, j'ai toujours été fascinée par ce regard et cette fameuse perle à la taille conséquente. À l'image de la Joconde, je trouve qu'il se dégage de cette œuvre un certain mystère. La tentation d'imaginer les liens qui relient la jeune femme à l'artiste est grande. Mais n'en déplaise à notre inventivité, pour ce qui est de l'identité du modèle, les chercheurs penchent vers l'hypothèse d'une des filles du peintre, coupant court à toute rêverie. Fort heureusement, le livre d'aujourd'hui est un roman, et sous la plume de notre autrice, le tableau prend une nouvelle envergure. Paru en 1999, on doit cet ouvrage à l'écrivaine britannique et américaine Tracy Chevalier. Passionnée par l'œuvre du peintre, la romancière est bien décidée à donner vie à ce modèle si mystérieux. Je la cite. À quoi pense-t-elle? Parfois elle semble vouloir séduire, parfois elle paraît triste. Parfois on croit qu'elle a 13 ans et d'autres 30 ans. Je me demandais ce que Vermeer avait pu dire ou faire pour qu'elle ait un tel regard. De cette interrogation est né ce roman. La jeune fille à la perle, ça parle de quoi? C'est l'histoire de Grit. Âgée de 16 ans, elle est issue d'une famille d'ouvriers tombés dans la misère. Elle est embauchée par la famille Vermeer pour s'occuper des tâches ménagères et des enfants. Le foyer se compose du père, Johan, le célèbre peintre, de Katharina, son épouse, de leurs 6 enfants et de la belle-mère de l'artiste, Maria Sins. Embauchée notamment pour faire le ménage dans l'atelier de son maître, notre héroïne se découvre un intérêt certain pour la peinture. Racontée à la première personne, Grit est la narratrice du roman, nous plongeant à ses côtés dans cette ambiance feutrée caractéristique des lieux. Elle commence alors à tisser une relation privilégiée avec le peintre, Joanne n'étant pas insensible à l'aura de sa nouvelle arrivée. La jeune femme s'immisce alors plus ou moins malgré elle, dans l'intimité de cette famille catholique hollandaise, non sans difficulté. L'histoire débute en 1664, à Delft, en Hollande, ville moyenne située entre La Haye et Rotterdam. Le roman est divisé en 4 chapitres, 1664, 65, 66 et 76. Les 3 premiers correspondant aux 3 années où Grit est au service de Vermeer. L'achèvement du tableau de la jeune fille à la perle étant estimé aux années 1665, à un an près, le cadre temporel de l'ouvrage est raccord avec le patrimoine historique de l'œuvre. En revanche, le récit reste de l'ordre de la fiction, à commencer par l'existence même de Grit et de l'éventualité de cette romance. Vermeer étant dépeint par les historiens comme un père et un mari aimant et présent. Grit n'est pas seule à travailler pour la famille. Elle partage ses tâches avec Tanneke, servante opérant sous les ordres de la belle-mère de l'artiste. Mais toutes deux n'ont en commun que leur activité professionnelle. Leurs rapports sont hostiles suite à la jalousie de Tanneke, sentiment qu'elle n'est pas seule à éprouver. Katharina nourrit elle aussi une haine grandissante pour la jeune femme, sensible au rapprochement progressif reliant la servante à son époux. Et pour cause. En parallèle de son travail, notre héroïne devient modèle dans le plus grand secret. Fascinée par sa beauté, Vermeer se rapproche de cette dernière. Une attirance stoppée net par la différence d'âge et de statut, séparant fort heureusement nos deux protagonistes. Mais alors, pourquoi ai-je tant aimé ce livre ? Pour être tout à fait honnête, si ce livre a été un réel coup de cœur, ça n'a pas été pour cette hypothétique romance. Si au moment de sa découverte, j'étais déjà restée insensible à cette intrigue, en relisant l'ouvrage 10 ans plus tard, je suis d'autant plus réfractaire aux liens qui unissent nos deux personnages. Que ce soit pour leur différence d'âge, de classe, le comportement problématique de Joanne ou encore pour le traitement général des femmes dans le récit, je me serais bien contentée d'un décor. Mais Grit reste tout de même intéressante. Poussé à quitter si jeune le cocon familial, on suit au fil des années les différentes étapes d'une coupure difficile avec le foyer qu'il a vu grandir. Le point de vue interne nous donne un accès direct aux pensées, contrariétés, questionnements de cette dernière, ce qui contrebalance avec sa timidité silencieuse. C'est sûrement pour ça que je trouve l'héroïne bien plus intéressante dans le livre que dans le film. Si l'adaptation brille par la place qu'elle donne à la photographie, à la beauté des plans, des effets de lumière, notre personnage n'en est que plus effacé, mettant en valeur un déséquilibre flagrant avec le maître de maison. Prenant des airs de récit initiatique, l'innocence de la jeune fille fait contraste avec les tentatives de rapprochement de ce dernier, me mettant franchement mal à l'aise. En réalité, au-delà des protagonistes, mon intérêt pour cette lecture vient de ses descriptions, de son immersion historique et de cette atmosphère si particulière que l'on prête aux ateliers de peinture. Ce qui m'a accroché dans un premier temps, c'est un attrait certain pour les récits d'époque. S'il arrive à Gris de sortir en ville, la plus grande partie de l'histoire se déroule dans ce huis clos, entre les quatre murs de la maison et de l'atelier. Malgré les rixes familiales et une hostilité pesante dirigée vers notre héroïne, je retrouve la tranquillité du quotidien propre à certains vieux ouvrages. Comme dans Orgueil et préjugés de Jane Austen, la beauté se trouve dans la simplicité des scènes décrites. L'émotion est transmise par un rayon de lumière, un regard. Le choix d'une narration à la première personne nous permet de nous projeter assez vite à cette époque, avec ses coutumes, ses objets et activités ordinaires. On est assez vite transporté par les nombreux rebondissements qui rythment la vie de notre héroïne. Des intrigues simples mais palpitantes à la Dompton Abbey. Le parallèle entre cette ambiance électrique dans le foyer, le bourdonnement de la ville et le calme de cet atelier donne une cadence à l'histoire, à tel point qu'il est difficile de décrocher. Je pense notamment à l'un des passages qui reste d'après moi le plus important de l'œuvre. Il s'agit du moment où Grit enfile la fameuse perle. Cette dernière n'ayant pas encore les oreilles percées, elle se transperce le lobe à l'aide du même bijou, sous le regard pressant de son maître. Au-delà de la symbolique de l'objet incarnant le baptême de l'œuvre, la scène est déstabilisante. Le comportement du peintre et la douleur dont la jeune femme témoigne dans sa narration en font un passage particulièrement violent. On assiste alors à une mise en abîme des liens qui unissent nos deux personnages. Grit est dépassé par cet univers et par l'intérêt que lui porte son maître. Loin de sa condition, cette dernière est projetée au rang de modèle, ce qui, contrairement aux apparences, lui causera bien plus de peine. Cela me rappelle cette citation, tirée du roman à propos du peintre. « Les femmes qu'il peint deviennent prisonnières de ce monde. Vous pourriez vous y perdre. »
For so long outside myself, you see, I was pretending to be someone else. I was longing to see who I wanted to be. And I've been waiting on my own.
Painting it with
C'était un extrait de Tout longue de Yaël Naïm. Vous écoutez Première page, une chronique littéraire pour lecteurs décomplexés sur Radio Campus Paris 93.9 FM. L'épisode du jour est dédié à la jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Lire ce livre, c'est comme rentrer dans un tableau. Lorsque je vais au musée, j'ai tendance à voir ces œuvres comme des fenêtres, des passages donnant sur une époque, un lien avec des êtres qui nous distancent de plusieurs centaines d'années. Un tableau, c'est un voyage dans le temps, et cette narration, permise par Tracy Chevalier, nous offre un imaginaire, une immersion privilégiée. Car malgré les aventures mouvementées de Grit, le calme du tableau n'est jamais loin. Il se trouve dans le regard du peintre, sensible aux lumières, aux couleurs et au visage de son modèle. Dans les descriptions des lieux, permises par notre héroïne dans une démarche plus vivante. Si Grit est dans l'action, Joanne est dans la contemplation. Discret, timide, les moments de peinture sont d'une intimité touchante. Les mots passent par le regard. Il se dégage de ces scènes un calme, une sérénité. On imagine assez bien l'ambiance feutrée de l'atelier. Alors que le monde extérieur ne cesse de gronder autour d'eux, nos deux personnages sont comme prisonniers dans ce tableau. Durant ces instants privilégiés, plus rien ne compte. Il ne reste que la patience du modèle, la précision du tracé et le silence de l'artiste. Grit est alors à la merci de cet homme, un objet de désir controversé. Toute l'ambivalence de ce lien se retrouve dans ce regard plein de mystère, emblématique du portrait. Je ne saurais dire s'il s'en dégage de la tristesse, une interrogation, un espoir. Mais je trouve que l'autrice a su saisir cette tension, cette latence, qui caractérise ces moments suspendus dans le temps. En trouvant sa place sur ce tableau tant convoité, notre héroïne semble enfin parvenir à intégrer ce milieu si lointain. Mais l'ouvrage questionne alors les enjeux de ce portrait et la place centrale de l'image dans cette relation. Que reste-t-il ? Une fois la séance terminée, une fois l'œuvre achevée. Enfin, il pose cette question plus large. Jusqu'où est-on prêt à se sacrifier sur l'autel de la beauté ? Pour aller plus loin, je recommande le portrait de Dorian Gray, roman d'Oscar Wilde, publié en 1890. Devenir chèvre, épisode 8 du Cœur sur la table, podcast de Victoire Tuaillon. Et enfin, à défaut de voir notre tableau en France, de découvrir la suite de l'œuvre de notre peintre au musée du Louvre. C'était le 14e épisode de Première page. Rendez-vous dans 15 jours, même heure, pour une prochaine lecture sur Radio Campus Paris 93.9 FM.